Bonjour, autre radio, autre culture, émission également relayée sur audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous recevons Bruno Gruel. Bonjour Bruno.
Bonjour Marion.
Et qui est ingénieur du son et qui travaille dans une entreprise de son qui s'appelle Electra Mastering. Alors c'est une toute jeune entreprise en fait.
Tout à fait, ça a 2 ans.
2 ans.
2 ans d'existence, voilà. J'ai monté la structure en 2006, en mai 2006. Et voilà, cela continue, la petite entreprise.
Alors... Pourquoi monter une entreprise après avoir travaillé comme ingénieur du son dans une grosse boîte, justement? Et malgré tout ce marché du son qui est assez difficile, dirait-on, et qui périclite, pourquoi avoir monté sa propre entreprise?
Alors moi, j'ai monté cette société, Electra Mastering, essentiellement pour avoir déjà la liberté de pouvoir... piloter un navire comme toute entreprise, a priori, puisque une entreprise se distingue des autres par son capitaine, qui peut parfois être le capitaine ad hoc. Hein. Et j'ai voulu monter cette structure pour pouvoir défendre une philosophie que peut-être les collègues, en tout cas, ne défendent pas, ou plus, ou peut-être pas assez, en tout cas à mon goût, c'est le goût de l'indépendant. Moi, j'adore travailler avec des indépendants, avec des petites structures, avec des gens qui n'ont pas forcément les budgets pharaoniques que peuvent avoir les maisons de disques comme les majors pour pouvoir graver leurs disques. C'est toujours des rencontres qui sont assez extraordinaires, parce que le but étant évidemment d'avoir un spectre d'intervention large. Et il est évident que quand on veut faire ce type de clientèle-là, on est obligé aussi de pouvoir décider de la politique tarifaire et commerciale que l'on va appliquer. Et ça, c'est le chef d'entreprise qui la décide. De ce fait-là, j'ai décidé de quitter en tant qu'employé la précédente structure auquel j'appartenais et auquel j'officiais en tant qu'ingénieur de mastering pour monter Electra Mastering et donner la possibilité aux gens d'avoir un service rendu de bonne qualité, de haute qualité, tout en ayant des budgets qui sont beaucoup plus resserrés et qui ressemblent d'ailleurs au visage de la musique aujourd'hui, en termes de finances en tout cas.
Ce sont 2 sociétés ou une société? Parce qu'on a également Supersonic Scale. Alors, quelle différence y a-t-il entre ces 2 sociétés? Ce sont 2 sociétés indépendantes ou c'est une qui est à l'intérieur d'une autre?
Alors, c'est une société qui est à l'intérieur d'une autre. Supersonic Scale est une marque commerciale d'Electra Mastering. Supersonic Scale est le studio de mixage que Véronica Ferraro a monté et le pilote. Donc nos 2 activités sont séparées. Je fais de la gravure, du mastering, elle fait du mixage et de la réalisation d'albums. Donc l'intérêt et la nécessité étaient de séparer aussi les 2 structures pour bien les identifier et ne pas faire d'amalgame. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire tout et n'importe quoi sous la même entête et bien séparer les choses pour que aussi au niveau de la visibilité sur les clients potentiels, on ait ces 2 entités qui font l'une en tout cas spécialisée dans la gravure et l'autre spécialisée dans le mixage. Et nous ne comptons pas croiser nos rôles. Véronica fait du mix, je fais du mastering. Et je n'aime pas faire de mixage, ça tombe bien.
Est-ce que les gens, quand ils viennent chez vous, chez Electra, vont systématiquement ensuite chez Véronique ou alors ils vont ailleurs, les rôles sont obligatoirement dissociés?
Ça, c'est le choix du le fait du prince. C'est vraiment le choix est libre de chacun. On ne fait pas de prosélytisme pour nos sociétés, en tout cas pour nos marques commerciales. Si Véronica mixe un album, ses clients ont tout à fait le droit, je dirais, d'aller graver, masteriser leur disque où ils veulent, y compris chez moi. Et à l'inverse, si j'ai des clients qui ont une volonté particulière, en tout cas s'il faut refaire par exemple un mix sur un de leurs projets qui ne leur plaît pas ou où il y a un problème technique, il est bien évident que je ne vais pas non plus leur mettre une arme à feu sur la tempe en leur disant « va au rez-de-chaussée, c'est mieux pour ta santé ». Nous sommes en démocratie, ne l'oublions pas. Donc non, le fait est qu'il est effectivement pratique de pouvoir accéder à un studio d'enregistrement au rez-de-chaussée, un studio de mastering au premier étage, surtout qu'ils sont interconnectés. Techniquement parlant, c'est plus souple, plus rapide. Maintenant, chacun est libre de s'entendre ou pas avec les intervenants que nous sommes, techniques, et de rester surtout libre sur, en tout cas, l'application de leur art, le traitement de l'art, puisque c'est de l'art dont on parle, et que c'est autant, hautement subjectif et hautement sensible. Donc la part humaine est très grande.
Alors, dans l'organisation de ce studio, quelle volonté avez-vous voulu mettre en avant dans le choix des machines ?
Ah, le choix des machines, c'est très simple. Des machines qui ont du caractère, qui ont des qualités sonores indiscutables, qui ont essentiellement très peu de défauts techniques, c'est-à-dire du bruit de fond inexistant, ou presque inexistant, puisque là, la perfection n'est pas de ce monde, bien évidemment. J'ai essayé de regrouper un parc de matériel qu'on retrouve à peu près dans tous les studios de mastering de la planète, c'est-à-dire les grands clichés du matériel de chez Daniel Weiss, du matériel de chez Prism Audio, les Anglais, du magnétique, évidemment, pour pouvoir lire les bandes quand les gens tournent encore leur mix sur des bandes, ce qui est bien. J'ai voulu vraiment mettre l'accent sur la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un niveau technique élevé, tout en restant très raisonnable sur l'accessibilité financière. Donc, pour ce faire, j'ai investi, et aussi pour pouvoir être crédible sur le marché du mastering, puisque l'on parle, mastering étant évidemment la traduction anglaise de maîtrise, ce qui est un terme un peu bizarre en français, un peu étrange. Moi, je préfère m'appeler graveur de disque, qui est un terme, je trouve, plus noble et plus proche de la vérité. On grave un disque, c'est-à-dire qu'on va faire le numéro zéro, on va étalonner, on va donner la cohésion et essayer que ça soit une belle histoire et qu'elle se raconte sans accroc. Et pour ce faire, on a besoin d'avoir des machines qui peuvent se faire oublier ou ne pas se faire oublier, justement, de pouvoir exprimer quelque chose peut-être de plus, en tout cas, puisque ce sont des machines qui, comme nos auditeurs le savent sûrement, ont un prix certain. Et rares sont les studios qui peuvent aligner leurs périphériques standards pour fonctionner, plus les machines que nous, on s'achète en mastering, qui sont certes plus performantes, mais avec un coût nettement plus élevé, cette fois-ci. En tout cas, le maître mot, c'est pas de concession. Aucune concession technique, cela va du câblage en passant par l'aération des machines, l'endroit, voilà, j'ai envie, je suis une des rares cabines à avoir de la lumière du jour, ce qui n'est pas qu'un luxe, puisqu'on reste avec temporellement dans la structure d'une journée, c'est-à-dire qu'on arrête de penser uniquement rat de laboratoire enfermé dans une boîte, on voit le jour décliner, les nuages, toutes ces choses sont importantes aussi, puisque ça joue sur l'humeur. Donc ça peut jouer aussi sur justement le côté extrêmement subjectif qu'il y a quand on écoute de la musique, quand on la corrige aussi. Et j'ai voulu rester justement extrêmement proche finalement du sentiment humain qui est dans la musique. C'est une des rares attitudes humaines encore intéressantes, l'art. Donc essayons de rester dedans.
Pourtant il y en a beaucoup qui se sentent, je parle des musiciens, hein, qui ont l'impression d'être vraiment musiciens et très artistes quand ils passent des nuits à enregistrer.
Oui, ça c'est la création à ce moment-là, l'acte de création. Moi je suis plus dans l'acte, non pas de récréation, mais ça peut l'être, hein, ça peut être très drôle une séance avec les gens en tout cas. J'essaie de rester dans une certaine objectivité, on est aussi structuré dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus faire une séance de 5 jours sur de la gravure. Ça reste quand même un métier assez objectif, hein. On est censé rester dans des normes, c'est-à-dire avoir une cohésion. C'est agréable aussi parce qu'on a plus cette espèce, le fait d'être à la lumière du jour permet aussi de changer de contexte, de ne pas se sentir en studio, en cabine, c'est-à-dire en cabine de création, en cabine de prise de son, où on va créer justement, où c'est quelque chose, un univers, une forme de bulle très protectrice. Là, on est déjà presque chez l'auditeur, on a presque lâché le bébé. Et une fois que le disque est pressé, de toute façon, il n'appartient plus à l'artiste, il appartient à son public. Donc on est à ce pivot-là, et c'est aussi cette volonté que j'ai eue d'arriver à être presque déjà en position d'auditeur, plus qu'en position d'artiste ayant finalisé son disque.
Alors c'est amusant parce qu'à vous écouter, on a l'impression d'avoir vraiment l'esprit écologique, on vit à la lumière du jour, et il y a une chose très particulière que vous mentionnez sur votre site web, c'est le fait que vous soyez le premier studio mastering alimenté à 100% à l'énergie électrique verte. Alors expliquez-moi un petit peu.
Ah bah c'est très simple en fait, c'est un néon vert qui clignote. Plus sérieusement, nous sommes donc Supersonic Scale Electra Mastering raccordés à un réseau de producteurs d'énergie à 100% verte, renouvelable, qui s'appelle Enercop, qui est donc une coopérative. Nous n'avons pas d'abonnement à EDF. Nous ne payons donc pas de facture à EDF et donc a fortiori ne consommons pas d'électricité d'origine nucléaire. En ce moment, il y a toute une forme de rout sur les producteurs d'électricité expliquant que l'énergie devient verte, l'énergie devient propre, l'énergie devient enfin correcte, politiquement correcte. Soit. Cela reste quand même la part congrue de la production. Nous, les Français, sommes les leaders européens incontestables de la production électrique nucléaire. Nous exportons énormément. Ce n'est pas une énergie propre. Soyons bien clairs, elle a une vraie implication dans le temps. Nous, à notre échelle, d'une vie humaine, nous ne la verrons sûrement pas. Les générations futures la découvriront, plus tard, enterrées en l'occurrence. Ça génère des déchets, c'est dangereux. Il y a 20 ans de cela, je vous rappelle l'histoire, on a failli quand même avoir un très grave problème en Europe. S'il n'y avait pas eu des gens qui étaient des héros, qui ont réussi à arrêter la catastrophe de Tchernobyl au péril de leur vie, et la plupart ont laissé d'ailleurs leur vie là-bas, on aurait eu un gravissime problème. L'Europe aurait été touchée, et certainement, je pense, de 200 à 300 km de la centrale aurait été un no man's land. Pour éviter ce genre de choses, on peut aujourd'hui faire de l'énergie avec du solaire, avec de l'éolien, avec de l'hydroélectrique. Il suffit juste de bien vouloir le faire, de fabriquer des systèmes éoliens offshore, là où il y a des vrais gisements électriques, c'est-à-dire en pleine mer. On a bien su fabriquer des phares pour éclairer la nuit les bateaux et les guider. Pourquoi pas fabriquer des pylônes avec des éoliennes à bout, en Manche comme en Bretagne, c'est pas le vent qui manque. Les bassins solaires existent aussi dans le sud de la France. Globalement, c'est une question de volonté du pouvoir politique qui, pour l'instant, a quand même été assis sur une manne d'or qui est l'énergie nucléaire. Et donc, pourquoi arrêter ? Donc, nous, on a voulu rentrer dans ce principe politique fort de dire non, on ne rentre pas dans ce jeu-là, on veut vivre sur une base donc de consommation de l'énergie électrique qui a été produite, elle, par des systèmes éco-responsables, typiquement le solaire, l'éolien et l'hydraulique. De ce fait, l'intérêt d'avoir des studios à la lumière du jour nous permet de ne pas mettre la lumière le jour, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des studios d'enregistrement, puisque bien évidemment, n'ayant pas d'ouvrant sur l'extérieur, on est bien obligé de s'éclairer, puisqu'on ne va pas faire de la musique dans le noir. Nous essayons de limiter tout ce qui est impact direct, c'est-à-dire éviter de consommer trop d'eau. On a des systèmes de climatisation, évidemment, puisque tout ça, ça chauffe. Ce sont des inverteurs que nous avons choisis pour la consommation électrique, l'impact électrique immédiat. Les isolations sont extrêmement importantes. Nous avons une très bonne isolation thermique. Tout est en double vitrage. Tous ces petits détails, au final, fait que on a un impact, nous, en tant que profession, plus faible. Pareil, les factures sont systématiquement envoyées par Internet en PDF. On évite d'envoyer du papier, d'en consommer, d'utiliser aussi le transport postal, qui génère forcément de la pollution, puisque le facteur consomme, ça paraît idiot, mais le facteur consomme du pétrole quand il roule, quand il circule en voiture, hein. Même en mobylette, à moins d'avoir un facteur à vélo, mais ça c'est l'image d'Épinal. Toutes ces choses-là, mises bout à bout, font que on arrive quand même à essayer de préserver notre patrimoine, à nous tous collectifs, qui est finalement ce qu'on a l'air qu'on respire, la terre sur laquelle on marche et qui nous donne de la nourriture. C'est des choses qu'on a un peu oubliées, tout ça. Je ne pense pas qu'on va se mettre à boire de l'essence demain avec une paille, par exemple. Donc c'est important, nous on s'y engage, on le fait depuis maintenant un an, et on continuera à le faire, et si d'autres solutions se présentent, je pense qu'on ira aussi. Et ça c'est une volonté claire. Et puis nous, les musiciens, globalement, la grande famille des musiciens, je pense que tout le monde on a tous été un peu avant-gardistes sur ce genre de choses-là, de dénoncer des choses, de faire avancer les choses. Ça date depuis la chanson de geste. C'est des choses importantes, c'est une vraie histoire, une vraie culture, et on a le droit, nous, de s'exprimer. On n'est pas muselé, a priori. Faisons-le.
Très bien. Mais les musiciens que vous recevez, ça les touche particulièrement, ce genre de concept ?
Alors, a priori, ça leur parle plutôt, oui. Sachant que, déjà, ça leur paraît assez étonnant qu'on puisse le faire. Dans la tête, la doxa, je dirais, le siècle va tout de suite penser « Ah là, mon Dieu, il faut que je mette des panneaux solaires. Ah, terrible, je vais devoir remettre des caloporteurs sur mon toit. » Tout le monde a l'impression que c'est une espèce de mission impossible d'arriver à d'être propre, en fait, au niveau, justement, de son alimentation d'énergie quotidienne. Alors que c'est très simple, c'est un abonnement. Un abonnement comme le téléphone cellulaire, vous avez le droit d'être chez Orange, Bouygues ou France Télécom, parce que c'est la même chose, donc Orange, Bouygues ou SFR. vous avez tout à fait le droit d'être chez EDF ou d'être chez Enercoop. C'est aussi simple que ça. Donc déjà, on lève ce voile-là, c'est-à-dire qu'on essaye de faire de l'éducation sur les gens et sur les musiciens. Donc les musiciens trouvent ça assez sympathique, en tout cas politiquement correct parfois, ou sympathique dans d'autres cas. Et ça rentre bien aussi justement parfois dans les projets musicaux que je peux avoir sur des gens qui sont très attachés à ça. Moi, je travaille par exemple avec un label qui est Faire Playlist, qui est un label écolo. Qui donc fait le festival de Ménilmontant, qui est le premier festival qui n'utilise pas d'énergie électrique, tout acoustique, à 100%, avec des emballages en carton recyclé, éco-responsable, pas de colle, avec des solvants. Ça, c'est une dynamique qui fonctionne grâce à ça, sachant qu'eux veulent aussi fonctionner avec des studios qui sont éco-responsables. Et là, ça devient difficile à trouver. Et là, ils m'ont trouvé. Et ça, c'est formidable. Hasard heureux, n'est-ce pas? J'essaie aussi de développer ça dans le sens où, du coup, on draine aussi de par le fait des gens qui sont intéressants, de par leur démarche, qui ont envie aussi de ça, qui ont ce vrai désir d'un avenir collectif à nous tous, un vrai avenir pour nous. Parce que si on continue comme ça, on va dans le mur, clairement. Et c'est même pas en se marrant, je dirais. On y va, d'une façon inéluctable. Donc, je pense qu'on a un vrai rôle, effectivement, les artistes et les intervenants. On a un rôle. On peut montrer l'exemple, puisqu'on n'est pas des consommateurs électriques forcenés. On ne fait pas de l'aluminium, je veux dire, on peut le faire.
Très bien. Non, je suis toujours épatée, moi, d'entendre des discours écologiques.
C'est bien.
Oui, non, je trouve ça très très bien. Alors, vous travaillez sur toutes sortes de types de musique.
Oui.
J'ai remarqué, vous travaillez...
J'en ai bien peur, oui.
Vous travaillez sur le jazz, le reggae, du pop, de l'électro house, du raga, du hip-hop, du rock...
Même du métal.
Du métal. Justement, est-ce qu'il y en a qui vous titillent plus que d'autres?
Ah, moi, mon petit chocolat, c'est le jazz. Le jazz, parce que c'est une discussion. C'est fou comme les jazzmen sont bavards. Ça, c'est une race de musiciens hautement bavards. Qu'est-ce que ça cause dans un disque de jazz? Ça, c'est fou. Et ça, j'aime beaucoup ce genre de choses. Sachant que dans la gravure, dans le mastering, justement, traditionnellement, le cliché, c'est de se dire « Oh là là, c'est du jazz, on touche à rien ». Que nenni, c'est du jazz, on va aussi être jazz. C'est-à-dire qu'on va essayer de rendre, en tant qu'auditeur, la petite image intérieure qu'on se fait justement du jazz, c'est-à-dire un son riche, défini, avec des micro-détails, le petit comme ça qui sort avant la note d'un soufflant quelconque, hein, que ce soit une trompette ou un bugle ou un sax, le son du ballet qui se pose avec le sentiment de se dire est-ce que c'est un ballet swing très enlevé ou est-ce qu'on y va un peu plus sur le poignet pour donner presque du rock dans un ballet sur une batterie. Ça, c'est vachement intéressant parce que là, c'est de la lecture pure. C'est-à-dire, c'est du vrai position d'auditeur qui se dit, est-ce que j'aime ce que j'entends? Et c'est la position d'auditeur qui pourrait se dire aussi, tiens, je vais mettre un peu de grave sur mon ampli, parce que j'aimerais en avoir quelque part. Donc moi, j'essaie à ce moment-là d'être le plus neutre possible, de se dire, je vais être l'auditeur lambda. Et qu'est-ce qui me ferait plaisir? Alors, selon le type de musique, si je vais faire, par exemple, quelque chose de très enlevé, je vais essayer comme on dit, ça drive, c'est-à-dire que ça se met à tourner vraiment et qu'on ait l'énergie de ce genre de choses. Si je suis dans le climat très doux, très... contemplatif, là je vais aller dans la super, dans l'ultra définition, de faire ressortir même les moindres notes qui traînent, le moindre petit harmonique, de la rendre pour avoir le plus d'informations possible, le plus d'intimité possible. Et j'aime le jazz parce que c'est de l'acoustique et c'est de la musique faite avec les mains et avec des instruments par des gens qui jouent en général ensemble de surcroît. Et on a cette cohésion, c'est-à-dire la cohésion humaine du fait que la prise en général est faite tout le monde ensemble, 3-4 c'est parti, record. Et puis, de la proximité humaine à la proximité musicale. C'est-à-dire que du coup, les gens, quand ils enregistrent, regardent. On a le discours qui se met à se mettre en place. Et du coup, la musique est vivante, une vraie musique vivante qui a du sentiment et qui a un propos. C'est pour ça que le jazz, j'aime vraiment. Parce qu'il y a cette densité, il y a cette émotion qui vient du fait que c'est de la musique plus qu'analogique. Plus analogique que cela, tu meurs. Ce n'est pas possible. Après, il y a plein de genres musicaux que j'adore, que ça soit de l'électro, j'adore la house, j'adore tout ce qui est musique en général de club, parce que justement, ça tape, c'est de l'énergie, à l'état pur, c'est super positif. Il suffit d'avoir masterisé des disques, par exemple, des disques qui passent en discothèque, et de s'être retrouvé soi-même en discothèque avec le son à blinde, plus de 100 personnes qui se mettent à sauter en l'air, c'est génial. Ça, c'est du vrai, de la vraie énergie positive aussi. Et puis après, il y a des musiques plus complexes. Par exemple, le métal. Les gens pensent que le métal, ça reste du bruit saturé. Absolument pas. C'est, il y a des codes, il y a des tas de mini détails qui sont très difficiles à percevoir quand on justement on n'est pas avec les musiciens. Je crois que c'est important que les musiciens viennent aussi à la gravure, parce que du coup on peut parler musique avec eux, c'est-à-dire qu'ils entendent le résultat final et qu'ils me disent s'il n'y a pas de travestissement par rapport au message original, surtout dans ce genre de musique extrême qui ont des tempos extrêmement rapides, où on a des phrasés qui dépassent la vitesse du son, pour le coup, surtout les guitaristes et les batteurs. Donc, il est important que les gens entendent le résultat.
Une question au niveau du métal, parce que je vois par rapport à certains forums qui sont en train de hurler, il y a les défenseurs du métal et les anti-métalleux. Y a-t-il vraiment, au niveau du métal, une connaissance beaucoup plus grande de la musique que dans d'autres types de musique comme le rap ou le hip-hop ou la pop?
Sachant que bon, alors, le hip-hop, tout le mouvement musique urbaine type hip-hop, rap, etc., sont des musiques qui sont jouées essentiellement en post-prod, on va dire, c'est-à-dire de la musique faite en électronique, avec généralement des séquenceurs, synthés, sampleurs, ces choses-là. On est donc dans le offline, mm-hmm, au niveau de la musique. C'est-à-dire on va la penser, la créer avec des machines, ou la jouer en live plus rarement. En tout cas, il y a ce phénomène de production. Avec le métal, on a une musique, là pour le coup, inline, en gros, un groupe, des gens, ça joue vite, ça joue fort, il faut être bon. Ça, c'est une base. Donc, techniquement parlant, on ne peut pas se permettre d'être... en tout cas, quand on commence à faire du métal rapide ou extrême, c'est difficile de ne pas être bon. Parce que ça va tellement vite. Et de toute façon, si on n'est pas bon, on va se faire épingler instantanément par la scène en disant « Ah non, mais ça ne va pas du tout. » Que l'avenir est quand même extrêmement compromis. Donc, le métal, ce qui est curieux, c'est que c'est une musique de technicien. Ça va très vite et c'est très dense. Donc, on est obligé d'être assez virtuose, finalement. Le hip-hop, c'est là, ce qui est différent, c'est pas tellement le genre musical, c'est vraiment l'approche technique. Dans le hip-hop, on va réfléchir, on va faire des boucles, on va travailler sur ces choses-là. Et au bout d'un moment, on arrive à quelque chose de finalisé sur scène, un DJ, des vinyles. On scratch les instrus qui ont été faites. On les joue sur un vinyle, en fait. C'était pas un groupe qui va jouer l'instrumental. Alors que ça serait faisable, hein. Mais souvent, c'est un DJ. Avec peut-être un intervenant ou deux, quand on va faire par exemple du fusion avec du hip-hop jazz, on va avoir justement une section qui va arriver pour jouer sa partie. Mais globalement, c'est les platines, avec quelqu'un, avec un rappeur ou un groupe de rappeurs qui sont les vrais performeurs dans ce cas-là. Finalement, on a remplacé la guitare et la batterie et le bassiste par des gens avec un micro. Alors l'approche, elle est le plus là, donc il faut être très bon techniquement, mais cette fois-ci dans le texte. Et là, c'est le lyricisme qui devient... La clé de voûte du talent, je dirais, la chose qui va faire la différence entre un entre guillemets bon rappeur et mauvais rappeur. Difficile de dire qui est bon ou mauvais rappeur, tout ça est évidemment extrêmement subjectif.
Et au niveau de la pop acoustique, vous n'arrivez pas à vous éclater aussi à ce niveau ?
Ça, vous savez, c'est difficile ça. Nous les Français, la pop, ça a toujours été un problème. Alors, je dis ça en me moquant un peu. Je pense que là, à un moment donné, nous, les Français, on a une langue qui est la langue de Molière, et justement, pour faire de la pop, c'est pas gagné. En anglais, c'est quand même, ça le fait beaucoup plus. Hein. Curieusement, quand on fait n'importe quel shawayawa en anglais de yaourt, bon, bah, tout de suite, on a une mélodie. Parce que je sais pas si ça vient d'une espèce de résonance morphique globale où on a tous dans la tête la pop l'anglais. Voilà. C'est un peu ce genre de choses-là, et on pourrait l'imaginer d'ailleurs. En français, faire de la pop, c'est vraiment pas facile. Parce que notre langue à nous, elle est quand même complexe. On a, phonétiquement, on a des trucs qui accrochent plus, en tout cas avec une guitare. On prend n'importe quel Gibson ou n'importe quel Gretsch, un balayage dessus avec une basse en français, c'est pas évident. Je trouve que les filles s'en sortent mieux que les garçons en français dans la pop, par exemple. La voix féminine se pose mieux sur un titre pop en français qu'une voix de garçon. Au niveau des tessitures, ça marche mieux avec les guitares. Mmh. Par rapport à nos phonèmes. Alors, la pop française, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir... Comme on a eu la French Touch avec la musique électronique,
oui.
French Touch, qui ne veut strictement rien dire d'ailleurs, on a eu un énorme succès international avec notre façon de faire de la house, parce qu'on a ce côté romantique qui n'est pas tout à fait latin, qui n'est pas tout à fait anglo-saxon, et qui a été un truc international, et qui l'est toujours d'ailleurs. Peut-être qu'on va avoir ça en pop aussi. Il y a quelqu'un qui va trouver peut-être la formule, le truc qui manque à la pop française pour que ça devienne radical. Tout est possible. Moi, j'ai bon espoir, pourquoi pas, parce que la pop remonte en ce moment en France, il y en a de plus en plus.
Oui, alors c'est amusant parce que je lisais une interview du groupe Cocoon qui disait que eux chantent en anglais, c'est un groupe français qui chante en anglais, qui chante de la pop en fait, et que l'on met sous l'étiquette French Touch. Et alors, c'est assez curieux. Je vous vois froncer le sourcil.
Oui, parce que French Touch Pop, bon, bon. Je vois pas où est le touch. Parce que le French touch, ça reste quand même pied sur le temps, house music. Et c'est ça, enfin, en tout cas, dans ma définition à moi, qui est peut-être un peu restrictive, la French touch, ça reste quand même de l'électro, a priori. En tout
en
cas.
Général, oui.
C'est
oui,
plutôt
oui.
Le lieu commun admis, ça. French touch pop.
Parce qu'on parle de French touch, justement, à propos de ces grands groupes qui marchent au niveau international. Qui d'ailleurs ne chante pas en français.
Oui, c'est ce qui est en fait là, c'est là où ça devient drôle, c'est que c'est de la French touch en anglais. Donc en fait, c'est de la Brit French touch.
Voilà.
Ça c'est fun.
Alors ces fameux groupes français, donc il n'y a pas seulement Cocoon, mais il y en a d'autres qui disent nous, on parle en anglais, on chante en anglais, oui. Même si on n'a pas un très bon anglais, ça sonne mieux. C'est évident qu'il est beaucoup plus facile de dire je vais aller couper du bois pour construire ma maison. En anglais que le dire en français. C'est comme de toute façon, ça a toujours été pareil, le Blue Suede Shoes de Cochrane.
Oui, ou même juste le carton interplanétaire français Born to be Alive.
Né
pour être vivant, ça le fait pas.
Oui.
Né pour être vivant.
Mais le savez.
Bon, ça le fait pas du tout. Au secours. Bon, par contre, c'est vrai, quand on écoute par exemple la javanaise, en anglais, ça le ferait pas du tout non plus. Voilà, chacun son tour. Ou même d'autres classiques français qui ont été repris ad libitum. En français, c'est quand même nettement mieux. Il y a des chansons comme ça qui sont absolument... Que reste-t-il de nos amours ? Qui est une chanson qui est intraduisible, qui est un bonheur absolu et en plus que aucun problème. On n'a pas besoin de le comprendre. À la limite, on le traduit après en lisant la pochette. Mais là, c'est parfait. Mais pas pour Born to be Alive.
Alors, vous avez travaillé avec Serge Forte,
Mein Gott,
pianiste de jazz.
Oui, qui est un caractère, est un vrai artiste A majuscule. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Serge Forte, qui aime beaucoup son piano, ça s'entend. Et c'est quelqu'un que j'apprécie, ouais, absolument, avec sa structure et la production.
Voilà, moi je l'ai écouté donc, sur internet. Avec un toucher très particulier du piano que j'aime beaucoup. Comment vous arrivez à faire ressentir justement ce toucher du piano ?
Il y a des petits truchements, c'est-à-dire qu'après on a les vieilles règles harmoniques des instruments. C'est-à-dire que sur un piano, globalement, on va savoir qu'à tel type de fréquence, on va plutôt ramener la table d'harmonie. À d'autres types de fréquences, on va ramener plutôt du marteau. Donc après, selon l'intention finalement de l'interprète, et dans ce cas-là qui est aussi d'ailleurs le compositeur, on va soit donner du volume, c'est-à-dire de l'ébénisterie au piano, soit lui donner un peu plus de nervosité. Et puis il y a aussi le troisième facteur qui rentre en compte, c'est la prise de son. Si la prise de son a été faite pour un piano, en tout cas dans les règles de l'art, si on a un vrai piano, un beau piano, où on a une main gauche, une main droite et un instrument. Et pas un espèce de ragounia de tout ça mélangé en se disant « Tiens, c'est drôle, j'ai l'impression que les basses, elles viennent de la droite, ça m'ennuie un peu. » Peut-être qu'en fait, j'étais sur le piano et pas derrière le piano. Donc c'est aussi assez perturbant. Là, j'en appelle à nos auditeurs qui seraient peut-être un peu plus jeunes, qui sont au début de leur carrière. Attention au placement d'un micro, attention à la stéréophonie, ce n'est pas qu'une illusion. On voit des choses quand on ferme les yeux en stéréo. Là, l'image, on la voit, on l'a. Hein. Fermez les yeux, vous allez avoir les images. Et c'est important de faire une belle mise en scène stéréophonique, avec une belle prise de vue, pour le coup. Et c'est pour cela qu'il faut faire gaffe à ce qu'on fait par rapport à une prise de son, surtout quand c'est de l'acoustique, parce que globalement, si la prise est bonne, le mix, il est fait. Hein. en fait. Hein, voilà. Donc l'intérêt, quand on fait par exemple du jazz comme ce que fait Serge Forté, c'est d'avoir le plus possible ce sentiment justement de groupe, ce sentiment de cohésion entre les intervenants, bien que le piano soit le leader forcément dans ce cas-là. Et selon la nature de l'œuvre, essayer de faire ressortir soit le côté dynamique d'un piano, soit son côté intimiste. Voilà. On ne passera pas de Jerry Lee Lewis à Chopin, mais on peut essayer de faire des petites choses quand même.
Est-ce que vous avez votre mot à dire? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez apposer une signature de son dans vos enregistrements? Votre propre signature?
Disons que si on vient me voir pour le son que je fais, je suis ravi. Voilà, c'est-à-dire que si a priori on me dit je vais venir voir Bruno parce qu'il va me faire un truc à la Bruno, là je suis ravi. Parce qu'il y a quelque chose qui se serait passé à ce moment-là. Moi, la chose la plus importante pour moi, c'est la régularité dans ce travail. J'aime être en dents de scie. C'est-à-dire que moi, j'essaie de toujours être régulier dans le résultat. C'est-à-dire de ne pas un jour être génialissime et le lendemain être nullissime. Ce qui serait, en tout cas, là, il faudrait que j'ai un rencard avec un psy, d'ailleurs, dans ces cas-là, ou que j'arrête de boire du picombière. Et en tout état de cause, ce qui est important, c'est d'être régulier. C'est-à-dire, quand les gens viennent vous voir, c'est pour, a priori, quelque chose que vous avez déjà fait. Ou alors parce qu'un ami a conseillé de venir, voilà. Donc, il y a déjà un passif. Et la moindre des choses, c'est de respecter ce passif-là. Quand on va dans un restaurant, on vient pour le chef, en général. Et le but de l'opération, c'est de refaire toujours son avarin de veau pareil. Parce que c'est pour ça qu'on vient vous voir. Donc ça, c'est la belle basique. Après, si je peux ramener ma touche personnelle, je la propose. C'est-à-dire que je fais écouter ce que j'entends. Dans l'idéal, dans mon fantasme. Je fais écouter au client. Je dis voilà, moi ce que je ferais. Enfin, moi ce que j'entends. Alors, on enregistre en général. Je fais la version académique. Celle où, en fait, tout va bien. Et c'est respectueux. Et on n'a pas besoin de réfléchir 200 ans, on sait que c'est mieux, voilà. Puis après on compare entre la version c'est mieux et la version c'est ce que j'aimerais, à titre personnel, moi. Et c'est après le choix du roi, quoi. Moi je ne décide pas. Quand on me demande tu prends quoi, je dis ah, ça ce n'est pas mon disque. N'emmerdez-vous, ça c'est pas mon affaire, ça c'est la vôtre, l'esthétique. Ça c'est l'affaire du producteur, l'affaire de l'artiste, ça. De se sentir bien ou pas. C'est pour ça que je laisse du temps en général quand je fais du mastering avec les gens. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le master à la sortie de la séance. À moins que ce soit urgent et que si on a une nécessité impérative et impérieuse de graver le CD à la fin de la séance finale, de graver l'image des DP, on le fait. Mais en général, je fais un CD d'écoute, de référence, monté, qui ressemble à, comme deux gouttes d'eau hein, au final. Et puis on repart tous dans nos pénates et dans nos studios respectifs et puis on laisse couler deux jours, puis on réécoute. Puis voilà, alors là après c'est le petit mail, le petit coup de téléphone, soit c'est juste parfait et tout va bien, soit c'est un petit truc par-ci, un petit truc par-là, 90% du temps c'est ça. Et puis on arrive à 100% au final, enfin 99,99999. Et c'est ça qui est intéressant du coup, c'est de se laisser un peu de recul. Parce que forcément je vais, quand même, c'est plus fort que moi, je vais essayer de faire quelque chose qui me plaît. Mais je ne l'impose pas. J'essaie vraiment de garder ce principe de démocratie qui me tient à cœur dans une séance. Pas de dogme. Voilà. Alors, peut-être qu'un jour je serai célèbre ici, mais je dirai non, mais de toute façon je ne fais que ce que je fais parce que je suis qui je suis.
Mais est-ce que ça vous arrive d'aller à l'encontre de ce que vous pensez? C'est-à-dire.
À jamais. Ça peut pas être, c'est pas possible ça. Je suis navré. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, là je suis trop. Je suis trop primaire pour ça, je peux pas faire quelque chose qui me plaît pas. Ou alors je vais le faire, mais en disant clairement, là, je ne suis responsable de rien, et limite je le facturerai pas, parce que non, c'est pas possible ça. Quand on me demande de faire une apocalypse sonore, soit c'est drôle et on rigole bien, et là d'accord, soit j'ai affaire à quelqu'un de psychorigide, intraitable, dans ces cas-là je le fais, si je trouve ça vraiment abominable, je lui fais un prix complètement symbolique parce que je veux pas être responsable de soi et je supplie qu'on ne mette pas mon nom sur le disque, surtout pas ça, pitié, merci, pas de ça, entre nous, mais non, sinon j'essaie toujours de trouver une solution élégante pour essayer d'expliquer pédagogiquement, hein, bien sûr, qu'il y a un gros problème là. Et qu'à la limite, ce serait peut-être mieux de remettre un peu de sous dans le mix ou dans la prod plutôt que d'en mettre dans le mastering qui, de toute façon, ne va pas être bien. Donc, mon intérêt, ce n'est pas de prendre de l'argent aux gens pour leur graver des disques. Mon intérêt, c'est de faire des disques qui soient globalement corrects, que les gens soient satisfaits, que la carrière de l'artiste fonctionne pour qu'ils refassent des disques et avec un peu de chance chez moi. C'est un petit peu ça le but de l'opération, en tant que manager du coup d'Electra Mastering.
Ça vous arrive par moment de mettre à la porte des groupes?
Ah, ça ne m'est jamais arrivé.
Jamais?
Non, en 10 ans d'expérience, jamais. Il n'y a pas un seul. Non. Il y a eu des séances qui ont été parfois un peu difficiles à démarrer. Parce qu'il y a des caractères quand même dans notre métier. Hein. Il y a des gens qui ont un ego qui prend vite la pièce entière. Quand on arrive à la faire rentrer dans la pièce, l'ego et la personne. Mais en règle générale, au bout d'une heure, ça se passe beaucoup mieux. C'est toujours, je me laisse toujours une heure en général, un peu comme un chat qui commence à tourner autour de son coussin, en se demandant s'il va s'asseoir dessus, s'il va se coucher dessus. Puis en fait, c'était pas mieux devant la fenêtre. Et c'est un peu ce que j'utilise comme technique, c'est-à-dire qu'en gros, jamais de frontal. J'essaie d'abord de savoir ce qu'il y a dans la tête de la personne qui vient me voir comme désir, comme volonté. Dans l'idéal, qu'est-ce qui serait absolument génial pour son disque? Voilà. Mis à part Bernie Grundman, je veux dire. Hein. on en parle, on en discute. Moi, je commence pas par mettre le CD dans le lecteur en disant « on écoute ». Non. Déjà, on se parle, on discute en premier. On prend un café, on discute, on se tourne autour, on se flaire, on voit un petit peu qui est qui. J'aime bien savoir qui est l'artiste, qui est le chanteur, qui est le batteur, qui est le producteur, qui est responsable de quoi, comment ça se passe, essayer de comprendre la psychologie du groupe. Et ensuite, on y va, gentiment. On commence par écouter. On voit quel est le premier titre qu'on va faire. En général, je leur dis, quel serait le titre que vous voudriez faire en premier, qui vous ferait le plus plaisir? Ou alors, on va dire, quel est le tube? J'adore cette phrase, quel est le tube? Ou alors que quand même, il y a un monsieur qui a dit une chose géniale, c'était Eddie Barclay, qui a dit, on n'explique jamais un tube avant. Après, on peut expliquer tout ce qu'on veut, mais alors avant, on n'explique jamais un tube. C'est une vérité première de notre métier. Le tube, donnez-moi, s'il vous plaît, la formule, que j'aille aux Caraïbes jusqu'à la fin de mes jours.
Est-ce que vous vous sentez plus technicien ou alors artiste? C'était une question qu'on avait posée à Thomas Matrinier, qui lui se considérait beaucoup plus comme artiste, puisqu'il donnait beaucoup de lui-même lors des enregistrements.
Ma position veut que je sois d'abord un technicien. Ça, c'est le basique du graveur. C'est-à-dire que je dois faire un blocus total sur mes sentiments esthétiques. Ça, c'est si je dois être, en termes de technicien pur et dur, il faut que je sois objectif. C'est-à-dire que même si une œuvre est géniale, si je vois que, techniquement parlant, ça n'est pas possible, parce que, par exemple, la voix, elle est totalement hors phase, ce qui m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, un truc génial, néo-indien, très beau, espèce de raga, néo-raga, très très chouette, très beau, avec des beaux sitars, un vrai boulot, hein, très très chouette. Et la voix de la dame, hors phase, complètement, dans les choux. Je mets en mono, disparition de la voix de la dame, étonnement total du groupe, du producteur. Mon Dieu, comment t'as fait? T'as un système pour faire un playback? Non, je n'ai pas inventé la machine à karaoké, sinon je serais milliardaire. Non. C'est juste la voix à l'envers. Ah, d'accord. Là, à ce moment-là, même si j'ai trouvé ça formidable, et qu'a priori tout le monde trouvait ça formidable aussi, puisque évidemment, une voix totalement hors phase, vous avez l'impression qu'elle vient derrière vous, donc c'est magique. Oui, mais non. C'est magique, mais il y a des limites à la magie, puisque là, en radio, par contre, sur un radio réveil, ben, on a un bel instrumental. Et puis, on n'a plus la voix. Et même dans un baladeur, c'est la même chose. C'est complètement. Moi, je trouve ça atroce. Techniquement, c'est pas possible. Donc là, à ce moment-là, il a fallu que je dise, eh ben non, on arrête la séance. Boum, terminé. Il venait du Nord en plus, donc c'était pas facile à expliquer là. Non, il faut qu'on refasse. Là, c'est technique. Alors que l'artistique, au fond de moi, me disait, ah, c'est génial. Mais non, pas de concession. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que je suis quand même plus technicien, in fine, qu'artiste. Et honnêtement, pour aller un peu plus loin même dans cette démarche-là de dualité technique-artiste, je ne me considère pas comme un artiste dans le sens où je ne crée pas. Moi, je suis un étalonneur. C'est-à-dire que la prise de vue est faite, le cadre est fait, la lumière n'est pas très jolie parce qu'il y a juste un point à faire, quelque part. C'est-à-dire que le blanc doit être blanc pour avoir des belles couleurs. Donc, dans le son, c'est pareil. À un moment donné, il faut que j'ai une base, un plancher qui soit propre pour arriver à faire ressortir tout le reste. Donc c'est plutôt là-dessus où je me situe. L'artistique, ça vient à ce moment-là quand on me dit « lâche-toi, fais ce que tu veux, propose-moi quelque chose, sois radical ». Oui, alors là, effectivement, j'arrête d'être technicien. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder mes petites aiguilles de compresseur gentiment bouger dans un petit dB soft et poli et convenu, à ce moment-là, ça devient une porcherie qui descend à 15 dB et ça devient l'apocalypse. Et tout d'un coup, on se retrouve effectivement dans un gros nightclub avec un boom boom énorme, parce que c'est ce genre de musique-là qu'on me demande en général de faire ce genre de choses, puisque c'est esthétiquement parlant, c'est le genre de truc que j'ai une facilité certaine à faire. Voilà, de par ma passé et une vie antérieure en production d'électro. Donc là, oui, là, je fais l'artiste. Mais 99% du temps, je reste le technicien, tout de même. Pour éviter de faire n'importe quoi avec le travail des autres.
Ça vous arrive par moment de recevoir de recevoir des musiciens et vous leur dites non, la qualité n'est pas là?
Alors là, ça c'est compliqué parce que j'ai vu des choses se faire dans d'autres studios que le mien. Parce que moi, bon, j'ai 2 ans d'existence en tant qu'Electra, donc j'ai pas eu assez de monde qui est passé pour avoir justement la junk food. J'ai vu faire dans d'autres structures des choses absolument ignobles, avec des choses... Non, il fallait juste qu'ils arrêtent tout, quoi, même chanter, en fait. Là, c'était le drame absolu. Là, c'est... Je suis pas méchant, en plus, en disant ça. Non, c'est... Si je vous faisais écouter... Je crois que c'est... Dans le worst stuff, on arrive à des niveaux là, de délire, enfin, de tout, hein, de mauvais goût, fausseté, il y a la totale. Moi, j'ai un disque chez moi qui est quand même... C'est l'apocalypse, hein. Au niveau son, à tout, c'est horrible. Au niveau texte, enfin bon, j'ai une perle. C'est, je crois, le pire disque que j'ai entendu de mon existence. Mais j'arrive quand même à être écroulé de rire quand je l'écoute. Donc, quelque part, il sert à quelque chose. C'est pas totalement inutile.
J'ai un moment de spleen, je vais l'écouter.
Ouais, je suis tordu, plié de rire. Tellement ça relève de... Ah, mais c'est, quelque part, c'est un petit peu... Monsieur Hulot, quoi. Si on en est à peu près dans Jacques Tati. Enfin, Jacques Tati, c'est vache pour Jacques Tati. Mais ça a ce côté tellement décalé. C'est un alien, c'est un truc, c'est de l'art, quoi. Donc là, je pense très fort à Rainer Maria Rilke. Elle est lettre à un jeune poète en disant que qui sommes-nous pour juger l'art? Pas grand-chose, et que tout ça ne reste que très subjectif, une fois de plus. Mais c'est vraiment atroce.
Alors, je vais parler de quelque chose qui tenait particulièrement à Yves Jagé,
oui.
Qui était la technique 5.1,
oui.
Qui, lui, est un partisan farouche de cette technique et qui regrettait justement que les majors l'aient complètement abandonnée, ou aient fait une espèce de faux 5.1 qui ne ressemblait à rien à ce que ça pouvait être réellement. Alors, vous, quel est votre parti pris dans cette technique? Et est-ce que vous regrettez? Vous espérez qu'un jour, ça va revenir sur le tapis?
La complexité vient d'une chose fondamentale, ça, c'est la volonté industrielle des fabricants de matériel. Parce que pour être dans un 5.1 idéal, il faut être placé au bon endroit. Alors, faites le test chez vos amis auditeurs, faites le test. Observez la façon dont les enceintes d'un home cinéma sont posées chez les gens. Et vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir des enceintes arrière mises à devant. Vous allez avoir la centrale qui va être dans l'un coin. Vous allez avoir le sub qui va être posé carrément sous la table, dans vos pieds. Quand tout le monde n'est pas carrément tout le monde devant, c'est-à-dire tout empilé, voilà. Bon, pour qu'un 5.1 soit intéressant, il faut quand même qu'on puisse entendre correctement ce qui se passe, la spatialisation, justement. Là où je suis d'accord avec Yves Jagé, c'est que dans le 5.1, on a une immersion sublime. C'est-à-dire que ce sont des sources discrètes. Donc on a une beauté de l'immersion qui est complète, si c'est bien fait. Hein. C'est-à-dire que si c'est bien enregistré, si la musique a été aussi pensée pour ça. Parce qu'on n'est pas que dans le classique, par exemple, où on va reproduire finalement l'acoustique naturelle de l'endroit. Il y a des acoustiques suffisamment brillantes et remarquables pour qu'on puisse faire justement une prise en 5.1 dans des très grandes salles de spectacle qui sont sublimes. Et là, effectivement, on a le sentiment d'être à l'opéra, c'est-à-dire dans la salle. Et ça devient fort intéressant. Au-delà de ça, après, la musique, ça doit être écrite pour ce genre de diffusion-là. Par exemple, un concert. Déjà, un concert, quand on est dans la salle, c'est quand même, soyons honnêtes, de la grosse mono devant, avec des gens qui hurlent derrière. Bon, là, je comprends aussi que les majors n'aient pas trop envie non plus de s'embêter la vie. ou même d'ailleurs les minors, parce qu'il n'y a pas que les grosses sociétés qui font ça, hein, on est, tout le monde est à peu près logé à la même enseigne sur ce coup-là. Bon, ok, applause derrière, hurlement devant, bon. Je parlais de la volonté industrielle parce que j'avais une petite idée derrière la tête en disant ça. Pour moi, le 5 points, l'endroit idéal pour écouter du 5 points, et je sais qu'il y a des gens qui vont hurler en entendant ça, c'est dans une voiture. Et je vais vous expliquer pourquoi dans une voiture. Parce que dans une voiture, vous n'avez pas le choix. Le siège, il est vissé au plancher. Les haut-parleurs sont dans la voiture. Ce n'est pas vous qui les avez installés. Ce n'est pas vous qui avez étudié l'acoustique. Et ce n'est encore moins vous qui avez fait l'ingénierie de tout le système. Donc, si c'est bien fait, ça fonctionne. Et dans une automobile, on a tous été confrontés au problème. Vous avez le passager droit, le passager gauche et les gens au milieu. Voilà. Là, on a un vrai intérêt d'avoir une immersion, justement. Pour être dans un volume, en fait, sonore, avec des choses qui se passent derrière, devant. Vous remarquerez aussi maintenant que, et je ne pense pas que ce soit innocent, dans la plupart des véhicules récents, vous avez un haut-parleur au milieu qui projette le son sur le pare-brise, mono, pour recentrer justement l'image stéréo, parce que par défaut, on est soit à droite, soit à gauche. Et c'est fort gênant quand on veut faire de la stéréo d'être à droite, trop à gauche. Parce que c'est le passager qui va plus entendre ou c'est le conducteur qui va trop entendre. Donc, je dirais le plus petit dénominateur commun, c'est de mettre un haut-parleur au milieu. Avec un système donc de sommation qui diffuse la mono. Donc on recentre. On est déjà presque, on est en tout cas sur un 3-0, je dirais. C'est-à-dire droite, gauche, centre, dans une voiture standard. Moi en tout cas dans mon automobile, j'ai ce système-là. Ça fonctionne, hein. C'est pas qu'un délire d'un ingénieur, ça marche vraiment. Alors peut-être qu'en poussant un tout petit peu, on pourrait éventuellement imaginer qu'on remplace le lecteur CD d'une automobile par un lecteur DVD de base, ou même d'ailleurs sur un CD, puisque ça rentre, hein, un flux audio, hein, en multicanal. Un petit peu compressé, ça rentre très bien. Et puis on se met à diffuser du 5 points dans une voiture. Et là, ça devient intéressant, oui, absolument. Dans les appartements, je sais pas. Honnêtement, j'ai vu tellement de choses complètement délirantes avec le système 5.1. Il faut éduquer les gens.
Ouais, c'est ce que disait.
Bon, déjà, la plupart du temps, vous retrouvez les enceintes hors face direct. Bon, le nombre de fils que j'ai retourné chez mes amis en disant j'arrive, j'entends la chaîne, une petite chaîne, tout ce qui va bien, très clean, marque japonaise, toute récente, pas une basse. Bon, bah, je m'approche, je dis tiens, c'est rigolo. Hein. Tiens, c'est très rigolo même. Tiens, on va enlever l'enceinte et on va retourner une des phases, histoire de voir. Et là, mon copain à côté, qui était là, me dit ah, comment t'as fait, il y a des basses. Je crois que t'avais quand même mis tes enceintes en opposition de face, mon grand. Et personne ne l'entend. Et ça, c'est arrivé à tout le monde, je pense. Il y a un million de fois, de remettre les enceintes en face chez les gens. Les gens n'entendent pas, déjà, leur phase, qui est quand même le truc le plus abominable dans le son. Alors, vous imaginez, 5 fois hors phase, hein, ce que ça peut donner. C'est rock'n'roll, hein. Donc, je pense qu'il y a effectivement une possibilité de faire du 5 points dans les véhicules, ce serait vachement bien. Au lieu de s'embêter la ville à mettre des écrans DVD partout dans les appuis-têtes, mettons déjà les 5 points normal. Ça pourrait relancer le matériel, relancer tout un pan du business sur le 5.1 et puis faire plaisir aux gens en voiture aussi.
Très bien, Bruno. Quelle est votre actualité au niveau du studio ?
L'actualité récente, ça a été l'installation d'une grosse paire de Westlake BBSM 12, qui sont des enceintes old school, c'est-à-dire des enceintes qu'on ne trouve plus trop maintenant dans les cabines. Tout le monde est extrêmement fan des systèmes BW Nautilus, qui sont des belles enceintes, super. Bon, moi, je suis resté un peu à l'ancienne, années 80, fin 80, début 90. La Westlake BBSM 12, c'est une enceinte droite de studio, qui pèse soit lourd, effectivement, qui, oui, encombrante, qui, oui, c'est épuisant de les déplacer, et ça se déplace pas. Mais bon, quand on met de la musique dessus, très curieusement, bah, ça sonne, naturellement. Il n'y a pas à se forcer les oreilles. Donc, elles ont été remises à neuf, j'en suis ravi. J'adore ces enceintes. Et pour moi, le numéro 1, le poste number 1 d'un studio de mastering, c'est le microscope qui nous sert à regarder ce qu'il y a dans le son, les enceintes. Là, on ne peut pas passer à côté. Le deuxième, c'est l'acoustique de la cabine. Donc je suis fort ravi d'avoir pu réussir à récupérer cette paire d'enceintes, puisque du coup, maintenant, j'ai un outil formidable. L'actualité artistique, j'ai travaillé récemment en faisant de l'électro, par exemple, pour Wax Taylor, sur la sortie d'un de ses nouveaux maxi. Différents artistes, comment dirais-je, qui préparent leur album, enfin, qui sont gravés et qui vont sortir, mais pour des raisons évidentes de confidentialité, je ne peux pas vous en parler, puisque c'est plan marketing et compagnie, donc les maisons de disques gardent ça au chaud. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du français, c'est que c'est de la chanson à texte, c'est que c'est très bien, fait par des gens qui ont déjà une carrière, comment dirais-je, derrière eux. Je suis assez content de continuer justement, parce que ce sont des gens qui étaient en major, qui sont devenus indépendants, qui continuent à faire de la musique dans leur coin. Et même si on leur a rendu leur contrat, parce que ça générait pas assez de millions d'euros, on va se contenter de dizaines de milliers d'euros ou un truc comme ça. C'est pas si mal pour mettre dans son frigo finalement quelque chose à manger. Hein.
Oui, tout à fait.
Faut pas croire. Hein. Finalement, l'indépendance, c'est pas un mauvais calcul quand on y réfléchit. Hein. C'est pas la même échelle économique. Voilà.
On n'est pas. C'est pas pour ça qu'on est plus malheureux.
Non, je crois, effectivement, oui. Puis les tomates dans le jardin, c'est très bien aussi. Ça coûte pas si cher.
Très bien, Bruno. Oui, écoutez, je vous remercie d'être venu. Ça nous a fait très plaisir de vous accueillir au sein du studio.
Le plaisir a été partagé.
J'espère que vous reviendrez.
Mais ce sera effectivement un autre rendez-vous, peut-être pour d'autres débats multicanaux.
Tout à fait.
On va peut-être inventer un nouveau système. Ça s'appelle la monophonie. Assez révolutionnaire d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est un haut-parleur devant vous finalement et avec le même son, on pourrait peut-être penser à faire ça, parce que je vois une petite pédale devant moi, la défait, là, on pourrait peut-être imaginer tout dans un petit truc qui s'appelle un poste à transistor. C'est l'avenir, je pense.
Très bien, Bruno. Je vous dis encore merci, et donc à très bientôt. Ici, autre radio, autre culture. Au revoir.
Au revoir.
Autre radio, autre culture.